Voilà, on va repartir. Ça va? C'est en forme? Après ce repas là, ça va être difficile de vous réveiller là. Alors, juste quelques indications. Notez que aucune de nos églises n'est saine et missionnaire. Et c'est un peu un débat que j'ai avec Gemma, parce que elle dit si à Valence nous sommes une église saine et missionnaire, et je dis non Gemma, il nous manque des éléments. Je pense que nous on serait dans les quatre aussi. C'est pas loin, mais on n'y est pas. Et on va voir pourquoi une église ne peut pas se permettre d'être une église moyenne. Pourquoi on se contenterait pas de quatre? C'est pas mal sur six. Pourquoi? Pourquoi 4 n'est pas suffisant? Pourquoi il faut au moins 5, 6? Alors on va le voir parce que, en fait, à chaque situation de l'Église, qu'elle soit en crise ou qu'elle soit stable ou qu'elle soit en danger, cette situation-là crée une situation qui fait que l'Église n'est plus tout à fait l'Église. Quand on relit le texte d'Actes 2, versets 42 à 46, on trouve que c'est too much, quoi. Enfin, ils se réunissaient tous les jours, et puis, voilà, comme Paul, quand il dit je cours, on dit mais pourquoi tu marcherais pas, quoi. Et on trouve que c'est un peu excessif. Mais l'église ne peut pas être autre chose qu'excessif. L'église est quelque chose de plein, qui doit nous passionner entièrement, qui doit prendre notre motivation autant que notre réflexion, notre volonté autant que notre action. Et on va voir pourquoi. Parce que dès qu'on se permet de faire des compromis avec notre engagement pour Dieu, il se passe des choses que le diable utilise pour faire que l'Église n'est plus tout à fait l'Église. Alors je vous rappelle juste deux citations de l'Apocalypse qui sont extrêmement perturbantes parce que quand Paul dit, quand Jean dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. On dit, ok, c'est une église, voilà, c'est une église stable. C'est une église juste, elle a perdu son premier amour. Mais lisons la suite. Si tu ne corriges pas, je viendrai, je t'enlèverai le flambeau. Je t'enlèverai ta qualité d'église de Jésus-Christ. Je t'enlèverai ce que je t'ai donné. Mais juste perdre le premier amour, quoi. Dans tout mariage, à un moment donné, on perd le premier amour, non, par exemple. Dans tous les couples, hein, enfin, à un moment donné, bon, voilà, quoi. On perd la flamme, etc. Mais est-ce que, justement, c'est pas dramatique, ça? Est-ce que on l'accepte d'être médiocre dans nos relations, d'être médiocre dans notre service? En tout cas, le Christ n'accepte pas. Pourtant, ce sont des églises dans l'Apocalypse qui sont persécutées. Ce sont des églises qui subissent des épreuves extrêmement fortes. Eh bien, le Christ demande à son église quelque chose de radical. Il y a cette autre lettre aussi où, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, parce que tu es tiède, et là, c'est extrêmement violent. Je te vomis. Vous imaginez l'expression, quoi, de dire à quelqu'un, de dire à l'Église que le Christ aime, c'est sa création, quoi. Ils disent, tu es tiède, je te vomis. Waouh! Mais Seigneur, tu nous aimes pas? Mais juste, Jésus est radical, il veut quelque chose de radical. Et tant qu'on est à quatre, eh ben, je suis désolé, mais on est déjà tiède. Il y a quelque chose de tiède et c'est inacceptable. Pas parce que nous l'acceptons pas, mais parce que le Christ n'accepte pas une église tiède. Alors, on va d'abord parler de cette église saine et missionnaire que nous ne sommes pas. Et il n'y a pas une seule église dans l'Union, je crois, qui est saine et missionnaire. Aux États-Unis, ils ont fait des statistiques. Il y a uniquement sur les Covenant Church, donc ils sont 450 églises, ils sont 17% des églises saines et missionnaires. 17%. Après, à côté de ça, il y a 32%, je vous donnerai les statistiques tout à l'heure, hein, qui sont stables. Et puis, il y a 32% d'églises en crise et de nouveau 18% d'églises qui sont en danger. C'est pas satisfaisant. Pourquoi nous devons tendre à une église saine et missionnaire? Parce que c'est la seule église qui a la culture de l'évangile, qui a la culture que le Christ veut donner. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on entend dans une église saine et missionnaire? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit les gens qui presque systématiquement viennent à Jésus-Christ, systématiquement intègrent la Bible dans leur vie personnelle et communautaire, adorent Dieu, grandissent en Christ, s'aiment et prennent soin les uns des autres, s'unissent autour d'une même vision, prient ensemble, collaborent avec d'autres ministères, se font confiance et travaillent en harmonie, donnent généreusement et sont volontaires, aident ceux qui souffrent, ont faim de Dieu, croient en leurs responsables et les responsables croient en leurs membres. Ils cherchent à sortir des conflits de façon constructive et ils pensent que faire le point est naturel et normal. Ça fait partie de quelque chose qui est normal, qui est vécu par l'Église saine et missionnaire comme évident, comme naturel. Est-ce que vous avez vécu des temps comme ça dans vos églises? Je pense que dans chacune de nos églises, il y a eu des temps, il y a eu des périodes où on a vécu ça. Et quand on vit ça, on a envie de s'engager dans ce type d'église. On a envie de donner plus, on a envie de s'engager davantage, on a envie d'aller plus loin. Alors qu'est-ce qu'on ressent dans une église comme ça? Eh bien, on ressent de l'anticipation. On est toujours en train de réfléchir comment on pourrait faire mieux. On ressent de la gratitude. On ressent de la réussite, de l'enthousiasme, de l'engagement, de l'unité, de l'amour. Parfois chaotique. Voilà. 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 On est toujours en train de bouger. Du coup, il y a des fois, dans le même soir, deux choses qui sont organisées en même temps. Voilà. De temps en temps, il y a des petits grincements comme ça. Parce que ça vit. Parce que ça bouge. Qu'est-ce qu'on entend dans ce type d'église? Ici, on ressent la présence de Dieu. Nous sommes heureux d'être engagés dans telle action, de participer à tel projet. Comment on peut aider? On fera tout ce qu'il faut. Quelle action pourrions-nous organiser pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous l'avez vécu? Il y a des périodes où on a vécu ça, non? Il y a des petites périodes où on a vécu ça. Et quand on a vécu ça, une petite période, toute sa vie, on est prêt à tout pour revivre ça. Non? Il y en a qui ont vécu ça? On court après ça, on aimerait vivre ça. Moi, juste, je voudrais vous raconter une expérience que j'ai vécue dans ma salle à manger, en fait. Il y avait un type qui est venu... c'est un pasteur qui est venu voir mes parents en disant, voilà, il y a un gars qui est allé en Amérique du Sud parce que là-bas, la drogue est beaucoup moins chère. Donc, il s'est fait un shoot d'héroïne. Et dans le shoot d'héroïne, il a rencontré Jésus-Christ qui lui a dit, c'est pas ça que tu cherches, c'est moi. Il est parti d'Amérique du Sud, il est revenu dans son village, il allait taper à la porte du pasteur en disant, voilà, il faut que je rencontre Jésus-Christ, il est venu me parler d'un shoot d'héroïne. Ok, le pasteur l'a regardé, ok. Et qu'est-ce que je vais faire de ce type? Et il s'est dit, tiens, je connais des gens qui ont une réunion de prière, je vais leur amener. Et donc, il était assez âgé, ce pasteur, et il a amené ce gars à mes parents en disant, voilà, il y a ce gars, je ne sais pas trop quoi en faire, je vous le laisse. Et puis, c'est barré, quoi, le pasteur. OK, donc moi, je me rappelle, j'avais 12 ans et il y avait ce gars, il avait les yeux comme ça, quoi. Enfin, vraiment. Et il était là, il disait, j'ai rencontré Jésus-Christ et je veux le connaître. Et alors, mes parents, ils ont fait leur catéchisme, ils priaient, ils étaient avec cet autre couple. En fait, il y avait un autre couple et un autre gars. Ils étaient 5 à prier. Et ils ont expliqué ce qu'ils connaissaient de Jésus-Christ. Hein. Il est venu à 2000 ans pour nous sauver de nos péchés. Le catéchisme que tout le monde ici pourrait réciter, voilà quoi. Et le gars, il se met à pleurer et il dit, waouh, mais il y a quelqu'un qui m'a aimé il y a 2000 ans. Vous êtes en train de me dire ça, mais c'est incroyable votre truc. Mais j'ai jamais entendu ça. Est-ce que je peux amener mes copains? Ok. Ben, qu'est-ce que vous voulez répondre ? Bah oui. Mais le problème, c'est que il en avait pas un peu des copains, il en avait une dizaine. Chacun, ils avaient une copine, et voilà. Donc ils sont arrivés, ils étaient une quarantaine à arriver chez moi. Ma mère, elle les voit, ils étaient tous maigres. Ben vous, si vous shootez à l'héroïne, voilà, hein, vous savez ce qui arrive. Donc des gens extrêmement maigres. Elle dit, oh là là, mais vous n'avez rien mangé. Alors elle fait des plats de pâtes, là, mais de la sauce tomate, du gruyère. Et jamais ces gens, on les avait traités comme ça. Et ils mangeaient leurs pâtes. Et pendant qu'ils mangeaient, il y avait des larmes qui coulaient sur leurs yeux, quoi. Parce que jamais on les avait accueillis en leur disant, ben voilà, je vais vous donner à manger. Puis après, on est passé à côté. Puis on a eu une réunion et ben, on a ouvert un texte de l'écriture. Voilà, il y a deux ou trois personnes qui ont commenté ce texte et puis on s'est mis à prier. Et pendant ce temps de prière, il y a des gens qui ont dit, moi, j'ai envie de donner mon cœur à Jésus. Et mon église, voilà, je suis né dans une église comme ça. Un jour, j'ai raconté ça à un éducateur spécialisé. Il m'a traité de fou furieux. Il dit, c'est pas possible que ces gens aient vécu ce que tu es en train de me raconter. C'est pas possible que ces gens qui se shootaient à l'héroïne viennent là et puis arrêtent d'un coup l'héroïne, se mettent à se laver, s'habiller, trouver un travail, parce que c'est ça qui est arrivé. Mais moi, j'avais 12 ans, ça me semblait tellement évident. Voilà, je l'ai vu comme ça, et quand vous le voyez comme ça, sans avoir un esprit critique, vous dites, waouh, c'est beau, quoi, ce que Dieu fait dans le cœur des gens. Et tout le monde, c'était clair pour tout le monde, c'était pas grâce à mes parents, grâce aux gens avec qui mes parents étaient, c'était Dieu qui était en train d'agir, juste parce que il y avait ben, 5 personnes qui avaient prié en disant, Seigneur, on est là, et si tu as besoin de nous, ben voilà, tu agis parmi nous. Et ces gens-là qui se sont convertis ont dit, est-ce qu'on peut amener nos copains ? Et ils ont amené jusqu'au celui qui leur fournissait avant la drogue, quoi. Enfin, celui qui vendait la drogue sur tout le marché de Nîmes. Ils ont amené jusque-là, quoi. Ils sont allés chercher tous leurs copains. Et la communauté de 5 personnes s'est transformée en une communauté de 100, 120 personnes qui a vécu des temps exceptionnels. Puis un jour, il y en a un qui a dit, tiens, on va faire une grande église, enfin voilà, qui s'est mis à faire des projets. Puis l'autre qui a dit non, on va faire un centre d'accueil. Et ils se sont tellement disputés les deux qu'ils ont dit que celui qui est d'accord que c'est la bonne vision me suive. Et l'autre a dit exactement la même chose et tout s'est cassé la gueule. Et c'est fou parce que je pense que toute ma vie, j'ai cherché à retrouver cette simplicité-là. Ce que Dieu fait, qui n'est pas dans une salle spéciale, qui peut se faire dans une salle à manger, dans une famille, dans très, très simplement. C'est pour ça, tout ça, c'est juste quelque chose qu'on peut ressentir dans une maison, dans une église, en mission très loin ou ici, très simplement. Si nous donnons les uns et les autres notre cœur au Christ et si nous lui ouvrons la possibilité de nous atteindre, mais de nous atteindre au point de pouvoir faire de nos vies ben, ces instruments, eh bien, on va voir des choses se passer extraordinaires. Si on l'a vécu, si je l'ai vécu, si certains d'entre vous l'ont vécu, témoignons de ça. Ça existe. Ce n'est pas un rêve. On l'a vécu trop courtement et on veut protéger ça. On ne veut plus que l'ennemi puisse détruire ces germes fantastiques qu'il a semés. Enfin, que le Christ a semé dans des familles, dans des églises. On ne veut plus que le diable puisse détruire l'œuvre du Christ parmi nous. On veut travailler à une structure qui soit très simple, où on laisse Dieu agir parmi nous, mais à la fois, on interdit au diable de nous diviser. C'est ça le projet Vitalité. Alors après, il y a l'église stable. L'église stable, on est quand même beaucoup là-dedans. Hein. Vous remarquez, on n'est pas loin de 4 chaque fois, hein. Même si c'est 3, ça tend vers le 4. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on entend ? Alors, une église stable, les gens parfois viennent à Christ. Il y a de temps en temps des conversions, il y a de temps en temps des baptêmes, il y a de temps en temps des gens qui intègrent la Bible dans leur vie et leur ministère, il y a de temps en temps des gens qui adorent Dieu, etc., etc. Hein, je ne vais pas vous les refaire. Vous les avez, ces différents éléments. Mais je reviens à la culture. Qu'est-ce qu'on ressent dans ce type d'église? On ressent de la sécurité et du confort. Dieu peut me demander beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout me demander. Il y a une zone de confort, il y a une zone que je garde pour moi. Et dans l'église, on ne veut pas être excessif, on veut garder un certain côté raisonnable. Dans la gestion des comptes, par exemple, il faut que ce soit sérieux les comptes. Dans toute église stable, les comptes, c'est le moment de l'assemblée générale où tout le monde écoute. Projet d'église, les gens bavardent. Mais quand il s'agit des comptes, chut, attends. Et puis tel chiffre là, voilà. Et puis il y a les experts comptables qui arrivent là, enfin qui savent toujours dégoter la contradiction, le comptable tout penaud. Ah oui, je me suis trompé sur un chiffre par rapport à. Mais c'est fou comme on est précis avec les comptes. Projet d'église, voilà. Léger niveau de frustration pour quelques-uns. Ils viennent le dimanche, ils amènent des amis, mais ils sentent que, voilà, on marche dans cette église, on ne court pas, hein. C'est un rythme, voilà. Et puis un projet, le temps que ça passe, le pasteur, il arrive fréquemment au conseil avec des projets. Oui, bah, la prochaine fois, on en parle, hein. On se suffit à nous-mêmes, on est autonome. On n'a pas besoin des autres églises, on n'a pas besoin de l'union, on n'a pas besoin de gens extérieurs, on est autonome. Tout est bien organisé. Qu'est-ce qu'on entend dans une église stable? Tout va bien, on s'en sort. Donc, léger déficit, mais ce n'est pas très grave. On avait mis des réserves l'année dernière en place. Donc, ne vous inquiétez pas. Qui n'aimerait pas notre église? Alors ça, c'est un truc qui m'est arrivé à Valence. Il faut que je vous le raconte. Vous ne le répétez pas. Hein. Si vous le répétez, je dirais que je ne l'ai pas dit. Il y a plusieurs personnes qui viennent me voir et qui me disent « Je ne me suis pas bien senti accueilli dans ton église. » quoi. C'était froid. Je suis venu. Le culte m'a plu, mais je suis reparti de là. Personne ne m'a dit bonjour, etc. Bon, alors je vais voir la commission accueil et je leur signale le problème. Et ils me regardent et ils disent « C'est pas vrai. » Je vous assure, hein, ils m'ont dit ça, comme ça. « C'est pas vrai. » On a un service accueil qui accueille bien tout le monde. J'étais là, je me suis dit, mais ils sont en train de dire que je mens ou que la personne qui est venue me voir a menti sur son ressenti. Vous voyez, c'est-à-dire à un moment donné, on fait tout bien, c'est bien organisé. Si tu dis le contraire, c'est que c'est toi qui as un problème, quoi. C'est-à-dire que c'est plus tout à fait l'Église qui est là pour les gens, c'est les gens qui doivent dire que l'Église est bien. Vous voyez le... Ça a tourné vite. Hein. C'est comme mes anciens qui disent « On va faire une grande église ou on va faire un système d'accueil. » À un moment donné, on n'est plus tout à fait au service de Dieu et on n'est plus tout à fait au service des gens. C'est un système qui devient un petit peu au service de lui-même. Il s'auto-entretient. Nous sommes une église accueillante. Et celui qui dit le contraire, vous avez compris, hein, le système. N'abîmez pas les locaux. On a beaucoup travaillé, on a fait en sorte que ce soit des jolis locaux. On a repeint l'année dernière, faites attention. Quand on arrive au conseil, ça je vous l'ai déjà signalé, on en reparlera la prochaine fois, dès qu'on parle projet. Voilà. Juste, je voudrais nous arrêter là. Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré? Vous voyez, elle est pas mal cette église, hein. Elle est pas mal, sauf que elle a perdu quelque chose d'essentiel. Elle a perdu le premier amour. On pourrait relire ce texte dans Apocalypse au chapitre 2. C'est la deuxième lettre, lettre à l'église d'Éphèse. Je te reproche juste une petite chose. Tu as perdu ton premier amour. Reviens là. Là où tu as perdu, reviens-y, quoi. Reviens en arrière. Parce que là, tu es sur une mauvaise pente. Petite différence. Après, il y a l'église en crise. L'église en crise, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on entend? C'est une église où très rarement il y a des conversions, où très rarement. Enfin voilà, je vous passe ça assez rapidement. Par contre, qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent de l'anxiété. On passe le niveau supérieur. Pourquoi Jean-Pierre est venu nous voir pour nous dire que quelqu'un avait dit ? Et puis, il ne nous a pas dit qui c'était. Pourquoi il ne nous a pas dit qui c'était ? Quelle était son intention quand il est venu nous voir ? Vous voyez, et puis on commence à se prendre la tête, le chou, sur des questions personnelles comme ça. Ça veut dire qu'il ne nous aime pas, certainement. Pourtant, on fait ce qu'on peut, quoi. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de crise qu'on commence à provoquer parce qu'on est dans l'anxiété. On sent aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas. On sent qu'on est en train de passer à côté de l'essentiel. Mais ce n'est pas clair. On est dans la crainte. On a peur de tout. On a peur surtout des projets. On a surtout peur de vitalité. Ça, c'est sûr. On est dans la confusion aussi. C'est-à-dire qu'on parle d'un problème et puis en fait, on va parler d'autre chose. Je reprends mon histoire là de l'accueil. Je vais voir l'équipe accueil en disant « il y a un souci, il faudrait corriger ». Et ça devient du coup un problème entre le pasteur et l'équipe accueil. Vous voyez, on change de registre et ce n'était pas ça l'objectif, quoi. Qu'est-ce qu'on entend ? On est sur une trajectoire qui ne présage rien de bon. Il commence à y avoir des gens qui pointent, quoi, qui mettent le doigt sur des soucis. J'ai entendu dire, il y a quelqu'un qui a dit. Alors là, c'est le truc typique d'une église en crise. Il y a quelqu'un qui a dit, qui, je ne peux pas te dire, il m'a demandé de garder le secret. Ça, il faut l'interdire dans une église. Parce que c'est terrible. C'est terrible. On donne du crédit à une voix qui ne veut pas dire qui elle est, quoi. Pourquoi les gens s'en vont-ils ? Il y a un problème. Quand on regarde dans le miroir, on est plus qu'on était auparavant. Vous voyez, on dit tout ça et on est dans le flou. Quand on dit ça, ce n'est pas un jugement. C'est juste, on l'entend. On l'entend et ça crée des malaises. Et dans ce malaise-là, eh ben on perd la flamme. Le pasteur s'épuise et l'assemblée elle-même perd le moral. Il y a perte de moral dans les troupes parce qu'on est axé sur des choses qui ne sont pas si importantes que ça. On commence à avoir des problèmes ailleurs que là où ils sont. Il y en a qui disent « c'est notre moment de vérité ». Alors c'est par exemple la déclaration, c'est « il faut qu'on prie ». Il y a un problème, il faut qu'on prie. Voilà. Et on va prier, on fait une réunion de prière, et puis il n'y a pas beaucoup de monde à la réunion de prière, et on dit « c'est un signe, il n'y a pas beaucoup de monde à la réunion de prière ». Vous voyez, hop, et on rajoute les problèmes aux problèmes. Une église en danger. Alors là, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on entend ? Je passe ces 15 choses-là. Mais qu'est-ce qu'on ressent ? Là, on ressent de la colère. On a été abandonné. On ressent de la culpabilité. Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? On est d'humeur maussade. On se sent inférieur. On se sent en souffrance. On a perdu quelque chose. On est dans le déni. On se sent trahi. On se sent en défaite. On a une pauvre estime de soi. Qu'est-ce qu'on entend ? À quoi bon ? Personne ne m'enlèvera mon église. Si seulement on avait un tel, on pourrait grandir à nouveau. Il faut simplement qu'on s'accroche et Dieu nous aidera. C'est l'incantation, là. Vous voyez, on est dans... voilà. Dieu ne laissera pas son église bien-aimée mourir. Nous sommes une famille et nous ferons tout ce qu'il faut pour garder cette famille unie. Vous voyez, c'est plus l'énergie de la communion, c'est l'énergie du désespoir. Le désespoir uni, mais voilà, c'est tristouné, quoi. C'est la faute d'eux. On revient sur l'histoire. Souvenons-nous du bon vieux temps. On est dans la nostalgie et non plus dans le projet. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. C'est un texte qui vient juste après, vous savez, ce qui est dit sur donner son corps comme un sacrifice vivant. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voilà ce que je dis à chacun d'entre vous. Soyez réaliste. Alors, en fait, il y a des solutions pour toutes ces cultures-là, bien sûr. Il y a la possibilité pour une église stable de revenir au premier amour. Il y a possibilité pour une église en crise de s'attaquer aux vrais problèmes au lieu de s'attaquer à des faux problèmes. Et pour une église en danger, il y a possibilité de renaissance. Il y a possibilité de revenir à la vie. Ça, c'est ce que les promesses de la Bible disent. Mais il faut utiliser les bons instruments. Il ne faut pas, je dirais, mettre la thérapie pour une église stable, pour une église en danger. Ce n'est pas les mêmes thérapies, ce n'est pas les mêmes choses qu'on va faire selon ces différents types de cultures et de situations. Et pour ça, il faut savoir où on en est. Alors, ces quatre types d'églises, il y a une parabole qui nous permet de réaliser ce que ça peut être. Marc 4, verset 3 à 9, écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle le leva aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et elle se dessécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. D'autres grains tombèrent dans la bonne terre, montant et croissant. Ils finirent par donner du fruit. L'un rapporta 30, un autre 60, un autre 100. Et il disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors je vous propose de l'écouter cette parabole. Et vous allez me dire ce qu'elle vous suggère par rapport à ces quatre types d'églises. Bon, il y a un truc que j'avais pas vu avant de travailler sur cette histoire de vitalité, c'est qu'en fait, où qu'on soit là, il n'y a pas de fruits. Il y a un seul endroit où il va y avoir des fruits. Et alors quand il y en a en abondance, quoi. Mais quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et du coup, quand on est avec des épines ou avec des pierres, on est quasiment dans la situation de celles qui sont sur le chemin. Il n'y a pas de fruits. C'est intéressant, hein ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant encore dans ce texte ? Ça a l'air assez fataliste. Tu trouves ? Qu'est-ce que tu trouves fataliste ? Alors, je pense que là, tu touches quelque chose c'est la question de l'intention de Jésus quand il a raconté cette histoire. Et je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que quelque part, Jésus nous dit qu'il y a tellement de choses qui échouent, qu'on est découragé. Mais, et si juste on labourait, quoi ? Disons que s'il n'avait pas voulu... il y a un double choc. D'abord, le nombre d'échecs. Et puis, un second choc, c'est l'abondance quand ça réussit. Il y a là quand même une sorte de contradiction radicale entre « ça ne marche pas ». Style, hein, l'Église, ça ne marche pas. Mais quand ça marche, quoi ! Vous voyez, c'est une sorte de voilà. Mais ça marche ou ça ne marche pas ? C'est-à-dire que on sent bien que le 30, 60, 100, c'est pas très grave que ce soit 30. 30, c'est déjà énorme, quoi. Si déjà tous les grains rapportaient 30, ce serait déjà énorme. Et puis ça peut être encore plus et encore plus. Et il s'est arrêté à 100 parce qu'il a pas dit 200 et 400. Mais pour dire qu'il n'y a pas de limite, quelque part, à laisser l'œuvre de Dieu grandir, quoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce paradoxe entre l'échec et la réussite. Et qu'est-ce qui réussit? C'est une terre qui n'a pas. C'est ça qui est très intéressant, parce que souvent, quand on parle de l'Église, on dit qu'est-ce qui nous manque? C'est un peu comme le jeune homme riche. Qu'est-ce qui nous manque? Et là, c'est des trucs en trop, quoi. Dans le chemin, il y a du goudron. Dans l'endroit pierreux, il y a des pierres. Et dans l'endroit où il y a des épines, il y a des épines. Et la bonne terre, c'est quoi? C'est pas défini, mais en gros, c'est là où il n'y a ni épines, ni pierres et ni goudron, quoi. C'est là où il n'y a rien. C'est ouvert, c'est disponible, c'est souple. Vous rappelez quand on a parlé, ça va nous coûter de nous remettre en question. Ça va nous demander, vous rappelez, de l'humilité. Ça va nous demander de la souplesse. Ça va nous coûter des efforts. Ça va nous. Mais finalement, c'est changer, c'est peut-être juste laisser Dieu agir dans notre Église. Si on reprend les quatre types d'églises, il n'y en a qu'une qui est la bonne terre. C'est l'église saine et missionnaire. L'église stable, il y a des épines, il y a des très bonnes choses, mais il y a des choses décourageantes. Voilà, l'équipe accueil qui accueille pas bien tout le monde. On accueille un peu à la tête du client, voilà. Et ça casse tout, quoi. Parce que c'est choquant, c'est scandaleux, ça va pas, c'est plus tout à fait l'évangile. C'est pas un évangile pour tous, c'est un évangile pour les gens qu'on trouve assez, on les aime bien, alors on va vers eux. Puis d'autres, on les aime moins, et on oublie des choses essentielles. Il y a des épines, il y a des choses qu'on se permet qu'on ne devrait pas se permettre. L'église en crise, il y a des pierres. Et l'église en danger, c'est le chemin. Ce qui est intéressant, c'est que une église saine et missionnaire l'est parce qu'elle a une prise de conscience. Elle veut l'être. Elle est déterminée à l'être. Une église stable est semi-consciente. C'est-à-dire que quelque part, on sent qu'il y a des problèmes dans une culture d'une église stable, mais on a tendance aussi à les nier, ces problèmes-là. C'est difficile d'en parler. Une église en crise est consciente parce que la crise révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'Église en danger et inconsciente au point de penser que il suffit de prier ou il suffit d'appeler l'union au secours pour que on résout le problème. C'est intéressant hein, cette vision de cette parabole parce que ça montre que c'est pas une affaire de degré, c'est une affaire de c'est bon ou c'est pas bon quoi. Soit c'est l'Église de Jésus-Christ, soit c'est l'Église qui a besoin de repentance et de changement. Mais je voudrais tout de suite dire que Jésus, il aime son Église. Il aime les Églises en danger, il aime les Églises en crise et il aime les Églises stables. Mais ce n'est pas parce qu'il les aime qu'il ne veut pas les corriger. Et ça, c'est un apport incroyable de l'Évangile. Quand on aime nos enfants, on ne leur dit pas que c'est bien quand ils ramènent un 8. Quand ils ont un 8, on dit qu'il y a un problème. Quoi. Ils n'aiment pas nous entendre dire qu'il y a un problème. Ils aimeraient qu'on trouve que le 8 est extraordinaire. Quoi. Mais toute ma classe, je ne sais pas, vous avez des enfants, hein, mais toute ma classe a eu 8. On s'en fout de toute ta classe. 8, ce n'est pas bon. Quoi. Tu ne peux pas revenir en me disant que 8, c'est une bonne note. Je ne peux pas l'avaler. Ce n'est pas possible. Et aimer son enfant, ce n'est pas avaler ses raisons qui ne sont pas de bonnes raisons. Et moi, je crois que Dieu ne nous prend pas pour des enfants. Il nous prend vraiment pour des partenaires capables d'intelligence. Relisez les prophètes, par exemple. Hein. Dieu parle à son peuple comme à un peuple capable de comprendre qu'il y a des choses à corriger et il y a un besoin de repentance. Alors, ce n'est pas évident de dire que Dieu aime notre union, que le Christ aime notre union, et de dire à la fois Christ veut que notre union se corrige et change et laisse son esprit nous révéler notre péché, nous révéler nos fautes, nous révéler nos compromis, nous révéler que nous sommes tellement ressemblants au monde qui nous entoure que du coup, nous ne sommes plus tout à fait les porteurs de sa parole. Alors pour les églises en crise, on souhaite qu'elles deviennent des églises saines et missionnaires. Par contre, des églises stables, si elles ne font pas gaffe, elles vont devenir des églises en danger. C'est la loi des diagonales, ça. Je vous redonne les pourcentages. Hein. Ça, c'est les pourcentages aux États-Unis. Et je vous le redis, je ne pense pas que ça corresponde à notre situation en France. Je ne crois pas que nous avons d'église saine et missionnaire. Et la preuve, ben, c'est les chiffres. On n'a pas grandi. En union, nous n'avons pas grandi. L'objectif, c'est que toutes nos églises deviennent saines et missionnaires. La loi des diagonales, changer de fondement. Une église saine et missionnaire a comme fondement Jésus. Une église stable a comme fondement le confort. Une église en crise a comme fondement le désespoir. Et une église en danger cherche juste à survivre. Message au pasteur donné par ce type d'église. Une église saine et missionnaire va dire « avançons ensemble ». Une église stable va dire à son pasteur « ne change rien ». Une église en crise va dire à son pasteur « regarde, là il y a un problème, c'est à toi de résoudre ces problèmes, mets des rustines ». Et une église en danger, eh ben, prépare mon enterrement. J'ai un ami, il s'appelle Monsieur Blanc, et à la fin de son ministère, il a dit, en fait, tout mon ministère, et c'est un ministère, hein, ça peut exister, il a enterré des églises. Toutes les églises où il est passé, en fait, quand il est parti, l'église était finie. Et je crois vraiment que c'était... Non, mais c'était pas sa faute. Je vous assure, c'était pas sa faute. Il est tombé chaque fois dans des églises où, eh ben, quoi qu'il fasse, ça avançait pas et c'était très difficile, quoi. Enfin, c'était très difficile à vivre. Et je vous assure, c'était un pasteur tout à fait, c'était pas un révolutionnaire, mais c'était un pasteur qui était tout à fait correct dans son enseignement, il faisait des visites. C'était vraiment un honnête homme, quoi. Mais voilà, ces églises, chaque fois, lui ont dit, ben voilà, tu es là pour faire notre enterrement. Ça existe, c'est une situation qui existe vraiment. Alors juste pour mettre un petit peu de légèreté dans tout ça, présenter une église saine et missionnaire, on fait du jogging pour s'entretenir. Quand on est une église stable, on va voir son médecin, on sent qu'il y a un petit souci. Une église en crise va se faire opérer, puis voilà. Alors bien sûr, c'est tout ça, c'est un petit peu schématique, hein. On est bien d'accord. Tout ça, c'est un peu. Mais juste, je voudrais revenir au départ. Est-ce que nous sommes vraiment décidés de partir d'ici pour aller là? Est-ce que nous avons vraiment ce désir d'avancer, d'aller plus loin, de changer? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que c'est possible. C'est tout à fait possible. La mauvaise, c'est que il faudra passer, je crois, par un temps de repentance, de remise en question de nos schémas, de notre vision peut-être même de l'Église. Mais imaginons que l'Église de Melun et l'Église du pays de l'Eure deviennent des églises où chaque fois qu'il y a un grain posé, il y a 30 grains qui poussent 60 et 100. Est-ce que ce n'est pas pour ça que nous sommes là? Est-ce qu'on n'a pas envie de voir ça? Est-ce qu'on n'a pas envie de le vivre? Et si ce projet, c'est celui du Christ, si ce n'est pas simplement le nôtre, pourquoi? Pourquoi ce ne serait pas possible? Mais le Christ ne fait pas de compromis avec nous. Il a une exigence. C'est que nous soyons vraiment prêts à ce qu'il nous montre là où il y a des épines, là où il y a des pierres, là où des fois même il y a du goudron. Et il nous demande de labourer notre terrain. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un terrain labouré. Ce n'est pas spécialement beau. Hein. Ce n'est pas spécialement... ouais, ce n'est pas artistique. Hein. C'est, voilà. Mais... Je crois que la question, c'est fondamentalement celle-là. On voudrait devenir des églises missionnaires en rajoutant quelque chose. Et ça a été la question du jeune homme riche à Jésus. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Et Jésus lui dit un truc terrible, et en même temps, le texte nous dit que Jésus l'aima, cet homme. Il lui dit, va, vends tout ce que tu as, et suis-moi. Et je pense que c'est exactement la même démarche qu'il nous demande. Quand il dit, suis-moi, il ne lui dit pas où ils vont aller, ce qu'ils vont faire. Il ne dit rien de tout ça. Il dit juste, tu as une première chose à faire. Oublie tout ce que tu connais. Oublie tout ce que tu sais. Oublie tout ce que tu as comme expérience, comme connaissance. Comme... Et il y a Paul qui a dit exactement la même chose sur son ministère. Il dit, tout cela, je l'ai considéré comme rien. En voulant saisir qu'une chose, le Christ. Vous allez me dire, tout ça pour dire ça à la fin, mais c'est nul, quoi. C'est nul d'être juste un terrain labouré. Vous savez, moi, cette histoire d'église qui a la vitalité, ça fait des années que ça court dans ma tête. Certainement même depuis mon enfance, depuis que j'ai connu ces expériences-là. Et pendant des années, j'ai voulu presque imposer ça à mon union d'église. Je suis allé de façon très, très agressive. Et un jour, je me suis tourné vers Dieu en lui disant, « Seigneur, mais c'est toi que je sers, je sais qu'il faut aller là. » Et vraiment, à ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu tellement douce qui me disait, « C'est pas toi qui vas le faire, c'est moi. C'est moi qui vais être devant. Et toi, tu vas me suivre. » C'était tout bête, hein, mais je voulais la vitalité sans que ce soit le Christ qui le fasse dans nos vies. C'est Christ qui va faire cela à Melun, c'est Christ qui va le faire sur l'église de l'heure, c'est Christ qui va le faire à Valence. Et je vous assure, on va avoir des grains qui vont porter des fruits, 30, 60 et 100. Est-ce qu'on le croit seulement ? Est-ce qu'on le croit, les amis ? Alors, je vous propose de finir ce temps juste par la prière. Peut-être des prières de repentance, parce que des fois, à cause de toutes ces épreuves qu'on a connues, on a douté. Peut-être aussi des prières de louange pour dire au Seigneur merci, parce que tu nous aimes toujours, même si des fois on est tellement à côté de tes projets pour nous. Peut-être des prières tout simplement d'intercession pour nos églises. Je voudrais vraiment qu'on ait ce temps, ce soir, de remettre notre terrain à Dieu et de dire, Seigneur, on est à toi, on t'appartient. Et si tu as besoin de remettre en question ceci ou cela, tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons, c'est faire ta volonté.